L'idée que le ciel de Manchester est gris n'est qu'une affreuse calomnie. Lorsque nous avons des visiteurs, il pleut, mais lorsque nous sommes entre nous, le ciel est magnifiquement bleu.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Chardot.
Une page d'histoire mise en musique, Jukebox, qui a pris ses quartiers d'été, vous propose chaque week-end à 19h une série de rediffusions. Bonsoir à tous. Ce soir, tandis que le Brexit se rapproche inexorablement, repassons la Manche pour aller nous perdre dans l'histoire d'une ville dure et mélancolique, traversée depuis toujours par une très forte culture musicale, Manchester. Manchester, l'industrieuse, la laborieuse qui, à la fin des années 70, tout juste refermée l'explosion du punk, allait devenir le catalyseur de plusieurs révolutions esthétiques. Le post-punk, la new wave de Joy Division, de The Fall ou de A Certain Ratio, les riches heures de Factory Records et puis l'émergence des premières rave parties hallucinées de l'Hacienda. Derrière ces révolutions, une poignée de groupes, un journaliste démiurge, un producteur ingénieur du son sadique, mais surtout une certaine idée de l'Angleterre du Nord. Ce soir, 1976-1985, Manchester, dans les brumes existentielles. Au loin, des mini-jupes Japan, des cris épars, réduits au silence par le claquement des portières, les lampadaires à la traîne, le froid cinglant, la ville semble effacée. Le bus de nuit tarde à arriver, peut-être ne se pointera-t-il jamais, qui sait si une grève n'a pas été lancée la veille au soir à la suite d'un nouveau conflit syndical. Autour, les immeubles, rares comme des montagnes sombres et les friches comme des béances, les voitures qui refusent de s'arrêter pour l'avancer, lui, il faudrait être fou pour faire monter à ses côtés un inconnu en de telles circonstances, qui plus est quand cet inconnu est noir. Même les dealers sont retournés chez eux à compter leurs recettes amères. Bien sûr, la nuit ne durera pas éternellement. Bientôt, les lueurs lugubres de l'aube crèveront la chape réconfortante qui lui avait offert à lui un peu de répit. Les images affluent. S'il ne suffisait que de danser, si la musique et les ondes permettaient vraiment de se réinventer. Déjà, le souvenir des corps mouvants, des effluves de bière ou de sueur, du plancher détrempé commence à s'estomper. Même le rire gras de ces types aux dents gâtées, même le sourire désarmant de cette fille au comptoir. Tout ça pourtant a existé. La nuit avait été rude, la nuit avait été belle. Désormais, il faut déguerpir, s'arracher à ce no man's land pour regagner ses quatre murs. Bientôt, le jour se lèvera, toute musique tue, étouffée par le ronronnement des speakers déroulant monotone l'actualité du jour à Westminster, tout comme dans le Great Manchester. Il faudra de nouveau faire profil bas, pointer au guichet de l'ennui, patienter pour retrouver la chaleur des corps et l'insouciance de la danse. Une fois encore, comme chaque matin, il faudra tout recommencer et puiser le courage dans les échos de la nuit.
Always danger.
En silence, ne te détourne pas, ta confusion, mon illusion, portée comme un masque de haine de soi. Les gens comme toi trouvent ça facile sur leurs petits nuages, chassés au bord des rivières, dans les rues, chaque coin trop vite abandonné. Ne pars pas en silence, ne pars pas. Atmosphere, signé Joy Division, sorti en septembre 1980 au Royaume-Uni, tandis qu'une page de l'histoire venait de se refermer avec le printemps précédent, la disparition du chanteur. Mais accrochons-nous, ne succombons pas tout de suite à la mélancolie ravageuse, d'autant que l'atmosphère de Manchester, cette ville dont Curtis chantait qu'on ne pouvait s'en échapper, ce n'est pas que de la tristesse, c'est avant tout de la sueur et une forme de rage. Jadis, Manchester avait été le fleuron de la glorieuse Grande-Bretagne, celle de la révolution industrielle du 19e siècle. Des filatures mécaniques de coton, des cheminées d'usines, des entrepôts, des canaux et des viaducs. Une ville fière et orgueilleuse dont les masses laborieuses n'avaient jamais hésité à se soulever pour leurs conditions de travail ou pour le suffrage universel, quitte à le payer dans le sang. Cette ville ouvrière qui longtemps avait fait tourner le reste du pays, développer les machines-outils, le chemin de fer et plus tard les premiers ordinateurs, cette fin des années 70, Manchester était brutalement entrée dans l'ère post-industrielle. Vivant de plus en plus mal ces murs de briques salies de la suie des centrales à charbon, d'autant que les usines fermaient alors à tour de bras, faisant apparaître un décor lugubre, sans arbres ni parcs, des gamins livrés à eux-mêmes dans les rues jouant au milieu des carcasses calcinées et les chiens errants. Et puis, nombre d'alignements de ces petites maisons de briques mitoyennes, insalubres mais qui avaient le mérite salutaire de maintenir vivants les liens communautaires, ces fragiles constructions de briques avaient été démolies et rasées, et à la place, des grues avaient érigé de grands ensembles de béton, cités, logements sociaux dont le futurisme riant n'avait jamais réellement existé que sur la table à dessin de leurs concepteurs. Sur fond de gris béton qui avait tout recouvert, des friches et des larmes des habitants, une crise économique s'était abattue sur la Grande-Bretagne. Ne restait plus que le passé ressassé, les stigmates des bombardements de la guerre, encore omniprésents dans les récits des parents, le soir, autour de la table familiale ou lors des soirées au pub. Et puis cette crise, cette terrible crise, le chômage et la flambée des prix de l'essence à la pompe.
Qu'il s'agisse de pénurie totale ou de raréfaction d'essence, la vie quotidienne prend une couleur de crise. Il faut parfois une heure pour acheter 8 litres quand on trouve une pompe approvisionnée. Les rues s'assombrissent, les vitrines s'éteignent, les magasins s'éclairent à la bougie, les rues se vident. Mais stoïques comme toujours, les Britanniques pensent, ça s'arrangera. À Coventry, comme dans toute l'Angleterre, la chaleur des pubs contribue à maintenir la bonne humeur traditionnelle devant l'adversité. Crise ou pas crise, comme chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche, Dennis Rogers, le père des jeunes mariés, vient jouer sur son orgue personnel qu'il a installé dans ce pub pour mieux distraire ses amis. L'orgue, son seul luxe, lui a coûté 3000 francs. C'est toute la poésie de sa vie. À 15 ans, il était déjà dans le fond d'une mine. Cinq heures et demie du matin, Dennis Rogers part au travail. La vie de tous les jours a recommencé.
L'ennui par les mancuniens du groupe Buzzcocks, sorti en janvier 1977. L'ennui qui plombe cette ville chaotique, bardée d'échafaudages qui font siffler les vents venus des Pennines, la chaîne de montagnes voisines, et puis des Moors, ces landes désertiques, ensanglantées quelques années plus tôt par une série de meurtres d'adolescents commis par un couple de détraqués fans de Dostoïevski. À Manchester, on soigne le mal-être des chômeurs et des ménagères en distribuant massivement des antidépresseurs. Les vieux calment leurs nerfs en s'abrutissant au bingo. On cale sa faim en avalant d'indigestes tourtes à la viande. Les gamins de la classe ouvrière, eux, quand ils le peuvent, bossent dans les dernières usines, sur les docks, ou bien végètent dans des bâtiments à l'abandon, squattent des pioles vides, un simple matelas posé à terre et des fringues en boule dans les coins comme unique possession. Culturellement, à Manchester, ces années 70, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, on compense en s'inventant des looks improbables et chinés, en s'abreuvant de littérature, de drogues puissantes, champignons, LSD, amphétamines, et puis de musique, celle des Stooges, d'Iggy Pop, des Allemands de Cannes, des Doors ou bien du Velvet Underground. La musique qui, quoi qu'on pense de l'Angleterre, irrigue profondément et sincèrement le pays, notamment depuis la création en 64 de l'institution Top of the Pops, popularisant chaque jeudi soir à la télé les nouveautés du moment. Les nouveautés, c'est la vague punk qui, cette année 76, déferre les dont les fers de lance, les Sex Pistols, viennent se produire à Manchester le 4 juin au Lesser Free Trade Hall, la vieille salle de la cité, conviée par ceux qu'on entendait plus tôt, les punks des Buzzcocks, groupe qui vient alors de se former mais qui n'existe pas encore vraiment, tellement que, faute de pouvoir rassembler à temps les musiciens nécessaires à une première partie, ils laissent les sales gosses de Malcolm McLaren se produire seuls face à un public clairsemé. 42 personnes, mais parmi eux, presque tous ceux qui bâtiront les années suivantes la légende musicale de Manchester. Prenons Mark Smith, 19 ans, qui bosse comme manutentionnaire sur le port de Manchester. Ce qu'il entend ce soir-là le bouleverse autant qu'il quitte bientôt son boulot de manœuvre pour créer un groupe. Ce sera The Fall, la chute d'après le roman de Camus, Smith et les autres membres du groupe étant certes des prolos, mais par ailleurs de vrais rats de bibliothèque. The Fall qui publiera 2 ans plus tard son premier album contenant entre autres une satire grinçante de la ville, sa misère, sa dépression et sa pollution industrielle. La zone industrielle, les saloperies dans l'air qui vont te bousiller la gueule, le patron qui s'arroge la plus grosse partie de ton salaire. En cas de dépression, va donc voir le toubib, il te filera du Valium. Le groupe The Fall, Industrial Estates, 1978, vilipendant la pollution de la zone de Trafford Park et la crise ambiante. The Fall qui, par la suite, poursuivra autour du chanteur Mark Smith une longue carrière, déroulant une new wave grinçante, alimentée par des textes acerbes puisés dans la lecture des tabloïds, mais aussi dans la réalité des jeunes de Manchester d'alors et leur consommation pathologique de drogue. Des drogues célébrées dans une chanson de 1982 intitulée « Totally Wired ». I'm totally wired. I'm totally wired. We'll be right back. The Fall, Totally Wired, complètement défoncé, 1982. À Manchester, cette fin des années 70, ceux qui le peuvent bossent donc là où ils le peuvent, dans les usines, dans les pubs ou dans les services municipaux, comme deux jeunes types de Salford, l'ancien cœur industriel situé au nord de la ville. Ces deux types s'appellent Bernard Summer et Peter Hook. Eux aussi avaient assisté au concert des Pistols en 76 et, pareillement à The Fall, avaient décidé de fonder leur groupe. Le guitariste et le bassiste avaient publié une petite annonce pour trouver d'autres musiciens et c'est comme ça qu'ils avaient reçu un jour l'appel d'un certain Ian Curtis postulant pour devenir leur chanteur. Le groupe se baptise d'abord Warsaw, Varsovie en anglais, référence glauque à son ghetto juif, égrenant un punk hard rock sans grand intérêt. Plus tard, Warsaw deviendra Joy Division et, en termes de provocation, ça n'est guère mieux quand on sait que ces divisions de la joie renvoyaient en fait au bordel implanté dans les camps nazis où les soldats de la Wehrmacht, en route vers le front russe, pouvaient profiter de soumises esclaves sexuelles. Plus qu'une adhésion aux thèses nazies, tout ça ne traduit au fond qu'une fascination morbide et puis une attitude typique des punks d'alors pour la provocation et la défiance. Toujours est-il qu'après quelques mois de répétition, le groupe se produit pour la première fois en concert le 2 octobre 77 à l'Electric Circus, refuge de la scène hard rock mais qui s'ouvre alors au public punk dans de joyeuses mêlées populaires.
Can you explain to me why you come to the Electric Circus?
Because it's the best place where they put punk rock bands on. It's just got a great atmosphere.
Looks like you've just come out of Rizla for the day, doesn't it?
You won't go and see it. I tell you. Rockers
for plastic punk.
I want you to do something for me. Because look at me now. I'm nothing.
Dans la foulée, en juin 78, Warsaw, devenu Joy Division, enregistre et produit, grâce à un prêt obtenu par Curtis à la banque, au motif de s'acheter une nouvelle table de salle à manger, un premier 45 tours intitulé « An Ideal for Living », un idéal de vie. Le disque affiche en couverture le dessin d'un jeune tambour blond aux manières hitlériennes. L'une des chansons du disque, Warsaw, s'ouvre par la suite de chiffres suivantes 3, 5, 0, 1, 2, 5, qui n'est autre que le matricule de Rudolf Hess, proche d'Hitler qui avait aidé ce dernier à écrire Mein Kampf avant d'être arrêté et emprisonné en Écosse en 1941. Pourtant, malgré ses provocations, Ian Curtis, à la différence des autres membres de Joy Division, n'est pas qu'une outrabière et un bloc d'impulsivité. On peut même dire que longtemps, il fait tache dans le décor tant il se plie à un certain conformisme. Après une jeunesse plutôt sage, pendant laquelle il rend régulièrement visite à des vieux de son quartier pour égayer leur quotidien, il s'est marié tôt, à 19 ans, avec une fille de son âge. Certes, il a tendance à se shooter au médoc qu'il trouve. Certes, il affiche « hate », la haine en lettres capitales au dos de son blouson. Mais ce grand type ténébreux et poli vit depuis avec Deborah dans une petite maison de Barton Street à Macclesfield. Maison dont ils ont entièrement redécoré le salon en bleu, moquette, mur, canapé, rideau. Curtis passe une grande partie de ses soirées à écouter des vinyles, à lire la presse spécialisée, mais aussi à se plonger dans d'autres lectures. Nietzsche, Sartre, Hermann Hesse, la science-fiction post-apocalyptique de G.J. Ballard. Il écrit des nouvelles, de la poésie. Il peut se montrer aussi exubérant avec ses potes au pub que secret et introverti le soir devant ses notes. Deborah, sa femme, racontera: il était frappant de voir comment Ian consacrait tout son temps libre à lire et à réfléchir sur la souffrance humaine. La souffrance, ça n'est pas seulement celle qu'avait exploité jadis le fascisme ou le nazisme, c'est aussi la sienne et celle qu'il côtoie autour de lui, comme dans ce centre de rééducation pour personnes handicapées dans lequel il travaille et qui lui fait rencontrer un jour une jeune femme qu'il cherche à aider, essayant de lui trouver un boulot avant que celle-ci ne décède des suites d'une crise. Accident qui le marquera et nourrira l'un des titres de l'album que Joy Division enregistre en avril 1979. France Culture, Jukebox, ce soir Manchester, tout plutôt que l'ennui. Joy Division, She's Lost Control, extrait de l'album Unknown Pleasures, les plaisirs inconnus, enregistré en 3 week-ends dans un studio du sud de Manchester et qui restera le seul publié du vivant de Ian Curtis. Référence, on l'a dit, à une jeune fille handicapée croisée par le chanteur dans son boulot, mais qui renvoie aussi au mal-être intime qui ronge progressivement le jeune homme, ces passages à vide épileptiques qui bientôt l'entraîneront par le fond. Mais si l'on élargit les choses, on peut aussi dire que la perte de contrôle touche le pays tout entier. L'hiver 78-79, le Royaume-Uni traverse ce qu'on appelle alors l'hiver du mécontentement, the winter of discontent, marqué par d'immenses grèves, celles des syndicats du pétrole, des ouvriers, des usines, des ramasseurs d'ordures. Même les croque-morts refusent de bosser et les macchabées s'amoncellent dangereusement. À Manchester, les failles se manifestent aussi, entre autres, par l'effondrement de plus en plus fréquent de portions de chaussées avalées par les égouts. Dans le même temps, James Anderton, redouté chef de la police mancunienne, fait la chasse à la pornographie, à l'alcoolisme en pleine rue, utilisant pour piéger les délinquants des officiers en civil. Et puis Manchester est marqué par la multiplication d'incidents racistes et des défilés du National Front. Ce chaos social entraîne en 1979 la chute du gouvernement travailliste, tiraillé entre son désir de défendre les intérêts des travailleurs et l'impératif de sortir le Royaume-Uni de la banqueroute. Si politiquement, l'hiver du mécontentement voit l'accession au pouvoir des conservateurs et de Margaret Thatcher, musicalement à Manchester, le contrôle est désormais entre les mains d'un tout nouveau label, Factory Records, baptisé d'après la factory d'Andy Warhol. Fondé en 1978 par un journaliste, un certain Tony Wilson, un bourgeois déluré, féru de situationnisme, diplômé de Cambridge, est devenu animateur d'émissions musicales sur la chaîne régionale de Granada TV, où il avait fait passer les Sex Pistols dès 76 et où, deux ans plus tard, il fait connaître au grand public Joy Division avant même l'enregistrement de leur premier 33 tours.
Would you like to keep our hand in and keep you informed? The most interesting new sounds in the Northwest. This Joy Division is the most interesting new sound we've come across in the last six months. They're a Manchester band, with the exception of the guitarist, who comes from Salford. Very important difference. They're called Joy Division.
En dehors de Tony Wilson, qui règne en patron dandy et excentrique, Factory Records repose aussi sur un ingénieur du son, un certain Martin Hannett, l'un des acteurs clés de la révolution musicale de Manchester. Membre fondateur de Factory Records, dont il devient le principal producteur, Hannett est le sorcier de cette histoire. De 10 ans plus âgé que la plupart des musiciens qui passent entre ses mains, il profite de leur inexpérience et prend les commandes. Les punks voulaient alors rompre avec les années 70 qui avaient vu l'avalanche de productions hyper léchées, des overdubs, ces instruments ou ces voix réenregistrées, désirant revenir à l'énergie brute d'enregistrement dans des conditions du direct. Hannett les avait tous remis au pas, imposant sa volonté de modeler le son de tous les disques du label au cours de marathons en studio. Concernant Joy Division, Hannett avait atténué le volume de jeu, spatialisant les sons, modifiant les percussions à l'aide d'une curieuse machine, l'AMS, permettant de jouer très finement sur des échos et de créer des décalages vertigineux, mêlant au son des instruments divers bruits, ascenseurs ou verres brisés, forgeant des atmosphères sombres et inquiétantes. Hannett, ses cheveux longs et ses lunettes au verre fumé, son alcoolisme chronique, plus tard son addiction à l'héroïne, ce type qui pouvait vous faire reprendre éternellement une même prise au motif qu'il fallait la jouer un peu plus lentement mais à la fois un peu plus vite. Non dénué sans doute de sadisme, Hannett instaurait un climat d'aliénation psychique en studio. Parmi les autres groupes qui passent entre ses doigts, un groupe local, A Certain Ratio, un certain ratio formé à Flixton, près de Manchester, influencé par un tropisme funk qui en faisait le pendant en plus joyeux de Joy Division, son chanteur Simon Topping imitant plus ou moins la voix basse de Ian Curtis. A Certain Ratio qui, à la fin de l'année 79, sort son premier album intitulé The Graveyard and the Ballroom. Le cimetière et la salle de bal, comprenant cet étonnant « Do the Ducasse », hommage encore à la littérature, en l'occurrence à Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, clamant désespérément « Mon cœur n'était qu'une plaie ouverte, tu m'as forcé à mon destin mortel, tu m'as transformé en pure haine, j'ai écorché ta chair avec mes pensées ». Le groupe A Certain Ratio pour ce 12 Ducasse extrait de leur album The Graveyard and the Ballroom, sorti fin 1979, sur cassette uniquement, vendu dans une housse en plastique transparente, agrémentée d'une image, l'ensemble conçu par un autre des piliers de Factory Records, le graphiste Peter Saville, 24 ans cette année-là, tout juste diplômé des Beaux-Arts de Manchester et qui depuis longtemps rêvait de faire des pochettes d'albums qui constituaient selon lui la seule collection d'œuvres d'art que pouvaient s'offrir les adolescents. Saville qui, pendant des années, s'en donnera à cœur joie, qu'on pense à la pochette du premier album de Joy Division, reproduisant l'onde du rayonnement électromagnétique minimaliste envoyé par un pulsar, ou bien à la pochette de l'album d'un étrange guitariste, Vinnie Reilly, le premier artiste signé par Factory sous le nom de The Dirty Column, clin d'œil aux combattants anarchistes pendant la guerre d'Espagne et que Saville avait enveloppé d'une pochette faite de papier de verre pensé pour bousiller sur une étagère les disques mitoyens. Le 18 mai 1980, quelques heures avant que Joy Division n'embarque dans l'avion qui devait conduire le groupe en tournée pour 15 jours aux États-Unis, Ian Curtis s'est retrouvé pendu dans le salon de chez ses parents. Deux mois plus tôt, Joy Division avait mis en boîte un deuxième album, Closer, qui sortirait quelques mois plus tard, propulsé par le déchirant Love Will Tear Us Apart. De fait, l'amour n'avait pas réussi à sauver ce gamin de 23 ans, sans doute trop sensible et marié trop jeune, dont le couple avait commencé à se déchirer après la naissance de leur fille, Curtis nouant dans le même temps une relation avec une journaliste belge, mais s'enfonçant dans la culpabilité, culpabilité décuplée quand Debbie avait découvert son infidélité avant de lui faire part de son intention de divorcer. Cette situation avait brutalement aggravé la fragilité chronique de Curtis, tout comme les médicaments qu'il prenait pour contenir son épilepsie. À une époque où les traitements anticonvulsifs étaient moins au point et beaucoup plus lourds qu'ils ne le deviendront, ne faisant in fine qu'accroître sa dépression, il devait surtout lui conseiller les toubibs, lever le pied sur l'alcool, se coucher tôt, éviter les flashs, l'exact opposé de la nouvelle vie de rockstar que découvraient depuis un an et demi Curtis et les autres membres du groupe. Sitôt le corps de Curtis mis sous terre au cimetière de Macclesfield, ses acolytes de Joy Division avaient décidé de poursuivre l'aventure sans lui, adoptant le nom passe-partout de New Order, l'ordre nouveau, le guitariste Summer reprenant également le chant. Après trois singles et un premier album, Movements, sorti entre 81 et 82, New Order donnera de plus en plus de place aux synthétiseurs mais aussi aux boîtes à rythme qui préfigureront une autre révolution musicale. Composé à l'automne 1982, Blue Monday sortait en vinyle en mars 83. Blue Monday par le groupe New Order, 1983. Pendant ce temps, le label Factory continue son aventure. Avec les revenus des nouvelles sorties de New Order, le nouveau phénomène, Tony Wilson, le patron du label, décide de créer un club à Manchester. Depuis 78, Factory organisait déjà des soirées, une fois par semaine, au Russell Club, où se produisaient des groupes maison, à commencer par Joy Division, exhibant les curieuses danses désarticulées de Ian Curtis, ces danses si singulières prenant des allures de marche conquérante, voire de course désarticulée, paupières baissées, laissant entrevoir des yeux révulsés. 4 ans plus tard, Factory veut donc son propre club. Ainsi s'ouvre en mai 1982 l'Hacienda, installée dans un hangar, un ancien showroom de bateaux à moteur, transformé par l'architecte Ben Kelly et le graphiste Peter Saville en un vaste espace post-industriel. Par la suite, on y proposera autant des concerts que des projections, des expositions, des conférences ou des défilés de mode. À ses débuts toutefois, l'Hacienda fait un flop. Soir après soir, l'espace reste désespérément vide. Il y a parfois plus de monde sur scène que dans la salle, entraînant des pertes abyssales épongées par les revenus des ventes de New Order que la comptabilité pour le moins baroque de Tony Wilson vient compenser. Parmi les groupes que le label Factory continue de signer ces années-là, citons les Happy Mondays, formés en 1985 et qui, 2 ans plus tard, publient un album produit par John Kell, incarnant le son de ce qu'on appellera les années Manchester, la ville rendue folle par les beats et la danse.
Should you be in here? Watch.
Le groupe Happy Mondays, emmené par l'ingérable chanteur Sean Ryder, qui fera les grandes heures de l'Hacienda. L'Hacienda qui finit par exploser grâce à une recette toute simple. Pas de physionomiste à l'entrée, tout le monde peut aller et venir, y compris les dealers. C'est que, corollaire obligé à cette époque, la plupart des 2000 danseurs qui investissent chaque soir les lieux est consciencieusement défoncé aux extasies, la nouvelle drogue en vogue qui provoquera d'ailleurs la ruine de l'établissement, étant donné que sous extasie, plus besoin de consommer de bière ou d'alcool qui permettent à toute boîte de nuit d'engranger de l'argent, non, il suffit d'eau et de danse. C'est là que, en 1987, un certain Laurent Garnier fera ses premiers pas comme DJ, développant la house music ou bien l'acid house et les premières rave parties. 10 ans plus tard, l'Hacienda toutefois devra fermer à la suite de la mort par overdose d'une gamine de 21 ans. À partir de la fin des années 80, Manchester avait entamé sa reconstruction. Le centre-ville avait fait peau neuve, à coups d'immeubles rutilants, le verre et l'acier, remplaçant peu à peu la seule brique. Les anciennes filatures avaient fait place aux lofts et à de luxueux appartements modernes. D'immenses salles de concert avaient vu le jour, le Bridgewater Concert Hall, le Manchester Evening News Arena. Le port de Salford avait été réaménagé. Manchester avait chassé ses ouvriers pour devenir une ville de service, voyant les centres commerciaux pousser comme des champignons. Même l'entrepôt de l'Hacienda avait été changé en boîte et le vieux quartier industriel de Hulm, à l'ouest de la ville, entièrement rénové. Manchester avait changé, il ne reste plus grand-chose aujourd'hui de l'effervescence rageuse et désabusée des groupes des années 80. Musicalement, les années suivantes avaient vu l'émergence d'une nouvelle scène, rock ou pop, derrière les Stone Roses, Oasis et consorts, mais ça c'est une autre histoire.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Like to say to you, but I don't know how.
ainsi se referme ce numéro de Jukebox, ce soir 1976-1985, Manchester dans les brumes existentielles, une émission diffusée pour la première fois le 26 octobre 2019. Merci à Antoine Villose de la discothèque, à Émilie Berthaud et Lauriane Mas de la bibliothèque, à Amélie Briand, le jeune Alina. Rendez-vous sur la page de Jukebox pour réécouter et télécharger cette émission. Vous y retrouverez la liste des éléments diffusés et la possibilité de nous écrire. À la technique, c'était Eric Boisset avec l'aide d'Alexandre Dang. Agnès Catou, comme chaque semaine à la réalisation, au micro Amaury Chardot. Pas de rediffusion estivale de Jukebox samedi prochain. Rendez-vous donc dimanche 23 août pour, avant la reprise, un dernier quartier d'été.